agent britannique qui travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge.
Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être accablés.
Le pauvre chevalier que je suis, je m'estime à 100 000 florins d'or.
Magnifique est la somme. Vous serez bien encombré pour la payer.
Je ne sais pas marchander.
Je vous aurais tenu quitte pour le quart.
Le roi de France m'avancera cet or. J'ose me vanter que si je ne trouvais auprès de lui aucun secours, les filles de France qui a son rouet, je userais ses doigts jusqu'à l'os pour gagner ma finance et m'acheter hors de vos mains.
Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passé, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. Les supplices répétés qui sont infligés par le soi-disant État islamique et ses affidés à des otages capturés et dont l'horreur est diffusée par tous les moyens modernes de la communication s'imposent constamment à l'attention, à l'émotion dans la vie internationale au seuil d'un siècle qui pourrait bien n'être pas moins sanglant que celui qui l'a précédé. L'otage est en passe de devenir de la sorte une figure obsédante. Et pourtant, il ne s'agit pas, chacun le sait bien, chacun le sent bien, d'une invention contemporaine. Bien au contraire, il a été présent depuis plus de 3 millénaires au moins, depuis l'Antiquité la plus reculée. Et cependant, la pratique de la prise d'otage a beaucoup varié quant à ses finalités, ses couleurs et ses conséquences dans la vie des peuples en face d'eux-mêmes et en face des autres. Ce qui peut renseigner sur l'évolution entre permanence et rupture des relations internationales et parfois des déchirements intestins d'époque en époque. Tel est donc le parcours à quoi je vais vous convier ce matin. Ce sera en compagnie de Gilles Ferragu, ancien membre de l'École française de Rome et maître de conférences en histoire contemporaine à l'Université de Paris-Ouest Nanterre, Gilles Ferragu, qui a le goût, comme il l'a montré dans divers travaux remarqués, de s'interroger dans la longue durée sur un sujet qui est d'une prégnance si forte dans notre actualité. Et pour commencer, deux archives qui datent des 22 et 23 octobre 1941, après plusieurs attentats contre des officiers allemands de l'armée d'occupation en France.
Français, contre des officiers de l'armée d'occupation, des coups de feu ont été tirés. 2 morts. 50 Français ont, ce matin, payé de leur vie ces crimes sans nom. 50 autres seront fusillés demain si les coupables ne sont pas découverts. Un ruisseau de sang coule à nouveau sur la France. La rançon est affreuse. Elle n'atteint pas directement les vrais coupables. Français, votre devoir est clair. Il faut faire cesser la tuerie. Par l'armistice, nous avons déposé les armes. Nous n'avons pas le droit de les reprendre pour frapper les Allemands dans le dos. L'étranger qui ordonne ces crimes sait bien qu'il meurtrit la France en pleine chair. Peu lui importe nos veuves, nos orphelins, nos prisonniers. Dressez-vous contre ces complots. Aidez la justice. Un coupable retrouvé et 100 Français sont épargnés. Je vous jette ce cri d'une voix brisée. Ne laissez plus faire de mal à la France.
Nous savions bien que l'Allemand est l'Allemand. Nous ne doutions pas de sa haine ni de sa férocité. Nous étions certains que ce peuple déséquilibré ne contraindrait pas longtemps sa nature et qu'il irait tout droit au crime, à la première crise de peur ou de colère. Parce que deux des bourreaux de la France ont été abattus à Nantes et à Bordeaux. Au beau milieu de leurs canons, de leurs chars et de leurs mitrailleuses, par quelques courageux garçons, l'ennemi prend au hasard à Paris, à Lille, à Strasbourg, 100, 200, 300 Français et les massacre. Naturellement, les malheureux qui à Vichy s'épouvantent eux-mêmes des horreurs qu'ils ont causées par leur capitulation se répandent en imprécations, non point du tout contre l'ennemi, mais contre ceux qui le frappent. Nous avons entendu hier la voix tremblante du vieillard que ces gens ont pris comme enseigne, qualifié de crime sans nom, l'exécution de deux des envahisseurs. Dans cette phase terrible de sa lutte contre l'ennemi, il faut que le peuple français reçoive un mot d'ordre. Ce mot d'ordre, je vais le lui donner. Il vient du Comité national français qui dirige la nation dans sa résistance. Voici. Il est absolument normal et il est absolument justifié que les Allemands soient tués par les Français. Si les Allemands ne voulaient pas recevoir la mort de nos mains, ils n'avaient qu'à rester chez eux et ne pas nous faire la guerre. Tôt ou tard, d'ailleurs, ils sont tous destinés à être abattus, soit par nous, soit par nos alliés. Ceux d'entre eux qui tombent dans ce moment sous le fusil, le revolver ou le couteau des patriotes ne font que précéder de peu tous les autres dans la mort, du moment qu'après 2 ans et 2 mois de bataille, ils n'ont pas réussi à réduire l'univers, ils sont sûrs de devenir chacun, et bientôt, un cadavre, ou au moins un prisonnier.
Je n'ai pas besoin, Gilles Ferragut, bonjour.
Bonjour.
Je n'ai pas besoin de dire que nous avons entendu le maréchal Pétain et le général de Gaulle en ce mois d'octobre 1941. C'est le moment où on fusille des otages, ceux notamment fameux de Nantes et de Chateaubriand. J'ajoute, pour être précis, que dans la suite de son propos, que je n'ai pas donné à entendre, de Gaulle dit que pour des raisons tactiques et provisoirement, en attendant le soulèvement définitif et décisif, il vaut mieux ne pas tuer des officiers allemands parce que les conséquences sur l'assassinat d'otages sont trop lourdes.
Tout à fait. Le fait est qu'en France, dans la France occupée, une première résistance menée par de jeunes militants communistes a conduit à une série d'attentats. Le premier, le plus important, enfin celui qui va attirer l'attention des Allemands, c'est l'assassinat de l'aspirant Moser le 22 août 1941 dans le métro.
À Barbès.
Voilà, tout à fait. Et de ce premier attentat jusqu'au 22 octobre 1941, il y aura 4 morts dans l'armée d'occupation, principalement des officiers, mais effectivement, les réactions des Allemands sont très vives. Dans un premier temps, au niveau français, au niveau de l'armée d'occupation française, on décide d'organiser des systèmes d'otages. Je cite le texte du général Schomburg. Et à partir du 23 août, tous les Français en état d'arrestation, que ce soit par les autorités allemandes en France ou qui sont arrêtés pour le compte de celles-ci, sont considérés comme otages. Donc il y a une logique d'otages qui se met en place à ce moment-là, mais à Berlin, on trouve que la mesure est trop limitée par rapport au crime qui consiste à abattre des soldats allemands.
Hitler réagit lui-même personnellement.
Ah, Hitler est fou furieux. Il fait donner un décret, c'est le décret Keitel, du 16 septembre 1941, qui préconise, lui, l'exécution de 50 à 100 otages pour un soldat allemand tué. Je cite une partie de ce décret. « L'effet de terreur doit être encore accru par la méthode d'exécution. » Le procédé inverse qui consiste tout d'abord à avoir recours à des peines relativement légères et à se borner à menacer de mesures plus sévères en vue d'obtenir un effet de terreur ne correspond pas à ces principes et ne doit pas être adopté. Donc, on exécute les otages. En plus, ça provoque un débat entre le commandement en France, le général Stuppnagel, qui estime que l'armée allemande n'est pas menacée en France, qu'il s'agit d'attentats qui sont ponctuels, et Berlin, où on exige au contraire des mesures radicales.
Une férocité absolue, oui.
Une férocité absolue qui va conduire à la série d'exécutions d'otages. Entre septembre et décembre 1941, 215 otages sont exécutés en zone occupée.
Beaucoup d'ailleurs sont communistes, c'est peut-être pour cela que Pétain dit qu'ils ne sont pas directement, vous avez noté, directement responsable.
Oui, tout à fait. La formule est intéressante parce que ça, c'est typiquement la communication qui est organisée par l'armée allemande, par l'OKW, le commandement allemand, qui décide de considérer qu'il s'agit certes d'attentats communistes, qui appellent, je cite, à des mesures d'expiation contre des gens qui sont de toute façon des terroristes. Et donc, les internés sont considérés comme non seulement des victimes expiatoires, mais surtout comme des criminels potentiels.
Et c'est à cette occasion que le ministre de l'Intérieur, Pierre Pucheux, accepte de choisir lui-même ceux qui seront tués parmi l'ensemble des otages potentiels.
Exactement.
Ce qui lui vaudra lui-même d'être condamné à mort un peu plus tard à Alger.
Tout à fait. Il y a un code des otages qui est mis en place le 28 septembre 1941 et qui consiste à, dans la manière d'organiser les listes d'otages.
Alors nous sommes là au cœur d'une sorte de modernité sinistre de la notion d'otage. Mais pour replacer cela dans la longue durée, puisque c'est notre ambition ce matin, Gilles Ferragu, il faut montrer que les otages, c'est une pratique très très ancienne, mais qui avait dans l'Antiquité une portée, une signification assez différente.
Dans l'Antiquité, l'otage n'est pas du tout la même chose. Là, on voit bien que l'otage, face à l'armée allemande, c'est effectivement une victime expiatoire, c'est une cible à part entière. Dans l'Antiquité, la notion d'otage n'a pas du tout cette même consonance, c'est une garantie.
Il faut peut-être revenir à l'étymologie même du mot. Otage, ça vient de hospes.
Alors, l'étymologie est débattue, mais de fait, l'otage vient de la famille latine hostem hospitem, l'hôte. C'est également attribué à la famille latine obsidem, qui revient sur l'idée de gage qui est donnée. Donc, c'est le mélange des deux qui va donner l'otage.
Il faut dire que hôte au sens de celui qui est reçu. C'est un peu comme le verbe louer, ça peut être à la fois actif ou passif.
Exactement.
Ce n'est pas celui qui reçoit l'hôte, mais celui qui est accueilli, avec toute l'ambivalence possible d'un pareil accueil.
C'est un accueil effectivement étonnant. On trouve même, et on peut faire un petit bond en avant avec par exemple l'histoire de Roger Hawk, qui a été otage au Liban en 1986.
Bondissez, je vous en prie.
Et qui a été détenu au domicile même de son preneur d'otage, dans la famille, avec sa femme et son enfant qui vaquaient leur vie autour. Et lui était enfermé dans une petite pièce tenue complètement au secret.
Enfin, dans le cas de l'Antiquité, ce n'est pas du tout de secret qu'il s'agit, puisqu'au contraire, c'est de manière ostensible que l'on prend les otages, puisqu'il s'agit en gros d'offrir une garantie. Il faut rappeler ce que cela a été. Ça remonte d'ailleurs déjà à l'Égypte des pharaons.
On trouve des pratiques d'otage dans l'Égypte des pharaons. On trouve un cas d'otage dans la Bible, dans le livre de la Genèse. Lorsque Joseph envoie le Joseph, qui est devenu un personnage important d'Égypte après avoir été vendu par ses frères, envoie ses frères récupérer son jeune frère préféré, Benjamin, mais garde l'un de ses frères, coupable entre guillemets, auprès de lui en Égypte, comme garantie et donc comme otage. Donc la pratique est assurée dès ce moment-là.
Il s'agit de s'assurer que l'ennemi que l'on a vaincu ne se redressera pas contre vous. En gros, c'est cela.
C'est garanti même, qui est beaucoup plus large. C'est-à-dire que non seulement c'est l'ennemi vaincu, qui peut être dans ces cas-là forcé de livrer des otages, et on pourra s'interroger sur la nature même de ces otages, ce peut être également une manière d'imposer à quelqu'un, et notamment à un allié, de respecter son serment. Par exemple, dans la Grèce ancienne, on considère que le serment, plus que l'otage, constitue une garantie. Mais que l'adversaire comme l'allié peut être forcé de donner des otages pour garantir justement la validité du serment.
Ils sont généralement assez nombreux.
Il y a à peu près tous les ordres d'envergure dans ce domaine. À Rome, par exemple, la pratique des otages est assez ancienne. On les trouve au lendemain des guerres contre les Carthaginois. Et en général, les Romains exigent entre 100 et 150.
C'est Polybe, c'est Tite-Live qui nous le raconte.
Mais face à d'autres adversaires, par exemple en Grèce, ils vont exiger plus de 1000 otages.
Alors, il faut qu'ils soient jeunes, parce que s'ils sont vieux, ils risquent de mourir et de perdre leur prix. Il faut qu'ils soient issus de familles suffisamment honorables ou honorés pour que leur prix soit assuré.
Exactement. L'otage idéal a entre 14 et 30 ans. Il appartient à l'élite. Idéalement aussi, c'est un personnage influent et surtout riche, puisque ce qu'on peut rappeler, c'est que c'est à l'otage lui-même, et à sa famille surtout, de subvenir à ses besoins. Toutefois, dans certains cas, on peut par exemple évoquer Diodore, qui évoque la demande, lui, du lacédémonien Cléonymos.
Diodore de Sicile, voilà. L'historien.
Oui, qui exigea de Tarente la livraison de 200 jeunes filles nobles et belles. Donc là, on a la nature des otages peut être changée. Donc l'otage, une fois qu'il est amené dans la ville, n'est pas forcément enchaîné. Ça, c'est le lot des prisonniers. Il est plutôt bien traité. Il a même le droit de se plaindre des conditions de sa détention. En général, c'est le Sénat romain qui fixe la manière dont l'otage est détenu. Et par contre, oui, l'otage doit assurer lui-même sa subsistance et la condition de sa détention. Il jouit d'une certaine liberté. Il peut être quand même la cible d'une surveillance discrète. Et par contre, la durée de détention est très variable. Ça peut être quelques mois jusqu'à plusieurs années. Et parfois aussi, il faut envisager le renouvellement des otages lorsque l'otage est trop vieux et qu'il ne fait plus un gage suffisant.
Il y a même l'idée qu'on peut les former à la romanité, et que par conséquent, ensuite, ils aideront au rayonnement de la culture et de l'influence de l'URSS.
Tout à fait. On peut les former à la romanité, donc c'est quasiment une forme de diplomatie, puisque l'otage, tout à coup, une fois qu'il a été acculturé et romanisé, peut devenir un négociateur. Et inversement, puisqu'il est arrivé parfois que des Romains soient otages, même si les Romains s'enorgueillissaient de ne jamais donner d'otages, inversement, un Romain peut lui aussi se retrouver comme otage et apprendre de l'endroit où il est devenu otage. Le cas le plus célèbre, c'est le général Aécius, qu'on considérait comme le dernier des Romains. Là, on est à la fin de l'Empire romain. Aécius, qui a d'abord été otage à la cour d'Alaric, le roi des Visigoths, de 405 à 408, puis à celle de Ruga, le 1, de 409 à 412. Là, il va se lier avec Attila. Il va découvrir les tactiques des Huns, et c'est ce qui va lui permettre d'écraser les Huns lors de la bataille des Champs Cataloniques en 451.
On peut signaler que la bande dessinée, lorsqu'elle a grand talent, peut nous renseigner, comme toujours, puisque Goscinny, dans Astérix en Hispanie, imagine que on est au temps de Jules César, imagine que Jules César demande à un chef ibère de lui donner son fils pour garantir la paix. Tant que toi et les tiens, est supposé dire César, vous resterez tranquille, il ne lui arrivera rien sinon. Et il ajoute, quand nous te rendrons ton fils, il sera imprégné de culture romaine. Goscinny était très attentif d'avance à tout ce que vous nous dites. Mais le chef ibère, tout accablé qu'il soit, se dit que sa seule consolation, je cite, c'est qu'avec le petit, ils ne vont pas rigoler tous les jours.
Exactement, faire venir des barbares à Rome, ça va être un coup.
Il y a d'autres aspects dès ce moment-là qui peuvent annoncer davantage notre actualité. C'est l'enlèvement pour des raisons de lucre. Il y a le cas célèbre de Jules César qui est enlevé contre rançon.
C'est un cas qui est finalement assez fréquent et qui va être multiplié pendant l'histoire, qui quand même apparaît à ce moment-là et qui relève finalement d'une manière dont certaines communautés, certaines nations vont financer.
César qui est enlevé en Cilicie par des pirates qui demandent une rançon. L'historien raconte que quand le jeune Jules César a appris le niveau de la rançon, il a dit « Et quoi ? C'est tout à fait insuffisant pour ce que je vaux. »
Ça, c'est une tradition qui reste au moins jusqu'à l'époque médiévale. C'est l'otage qui fixe lui-même la valeur de, je dirais pas sa valeur à lui, mais la valeur de ce que ses alliés, sa famille peut rassembler pour payer sa rançon.
Alors avançons, puisque vous évoquez le Moyen-Âge, et montrons, si vous le voulez bien, Gilles Ferragut, que la pratique perdure. À ce moment-là, on trouve trace du mot otage, semble-t-il, pour la première fois dans la chanson de Roland.
En 1080. Dès ce moment-là, on voit que l'otage est encore utilisé comme un garant. C'est-à-dire que autant les Mérovingiens vont finalement peu utiliser cette pratique, autant les Carolingiens, depuis Pépin le Bref, vont largement l'utiliser. La vie de Charlemagne rapporte nombre d'exemples de peuples bretons, bavarois, saxons, lombards, qui envoient des otages. Ces otages sont là pour garantir la foi jurée, les serments. Ce sont en général des personnalités, des primores gentis, et on les envoie dans les villas royales où ils sont, entre guillemets, éduqués à la mode carolingienne, on pourrait dire acculturés. Ils font donc non seulement de bons otages, mais ils feront par la suite de bons négociateurs. L'otage, à ce moment-là, est complètement encadré par le droit, ou du moins la coutume, et entre guillemets, il ressemble un petit peu à un diplomate.
Les Vikings aussi, les Vikings ont pratiqué dans leurs invasions ce type de capture d'otages. Je vois qu'en l'an 844, les moines de Saint-Denis ont versé aux Vikings 28 livres d'argent contre la liberté de 68 captifs emmenés lors de l'attaque du monastère.
Un otage, c'est non seulement un guide Michelin anachronique, puisqu'il parle la langue, il connaît le pays, et en même temps, c'est quelqu'un qu'on peut monnayer. C'est une excellente affaire pour un envahisseur.
Il y a toujours dans ce Moyen-Âge d'autres cas qui sont fameux, en particulier les bourgeois de Calais, 1347, que nous avons tous appris en classe primaire dans nos manuels. Le manuel de Lavis donnait grande importance autrefois aux bourgeois de Calais.
Tout à fait. Là, pour le coup, on est en train de passer de l'otage tel qu'il pouvait être utilisé à l'époque antique à l'otage plus moderne, c'est-à-dire celui qui garantit sur sa vie un traitement, une négociation, un traité ou un serment. Et l'affaire des bourgeois de Calais, c'est l'otage patriotique qui décide de se sacrifier pour garantir la survie de la France.
Calais a été assiégé par le roi d'Angleterre, Édouard, pendant au moins un an, et est obligé de se rendre, faute de munitions et faute de vivres. Et alors, effectivement, un petit nombre de bourgeois viennent la corde au cou.
Voilà.
Et pieds nus,
expier entre guillemets, la résistance de la ville face à l'envahisseur.
Et qu'est-ce qu'on fait de ces malheureux bourgeois de Calais, avec en tête Eustache de Saint-Pierre?
Et bien la figure, c'est là que la figure de la reine qui intercède se met en place, qui vient justement intercéder pour la vie des otages.
Ils sont ainsi sauvés. Il y a aussi le cas très très fameux de Jean le Bon qui mérite d'être exhumé, parce qu'il y a les princes, les rois otages, Jean le Bon et François Ier, mais d'abord Jean le Bon.
Alors il y a une longue série d'otages dans l'histoire, notamment époque Moyen-Âge et l'époque moderne. Jean le Bon est un des cas célèbres, puisqu'il est donc fait otage. Enfin, il est déjà capturé lors de la bataille de Poitiers en 1356. Il est incarcéré. Alors, toute son histoire d'otage montre l'évolution de son statut. Dans un premier temps, il est incarcéré à Bordeaux. Il est incarcéré dans un vrai confort. C'est-à-dire qu'il a pu réunir une cour, il peut négocier son statut d'otage. Par la suite, on l'envoie à Londres pour négocier le premier traité de Londres de 1358. Le problème, c'est que la guerre s'envenime et donc les Anglais, petit à petit, décident que finalement, on va durcir un peu le traitement. Jean de Le Bon est d'abord assigné à résidence en 1359. Il est détenu à la Tour de Londres en 1360. Et c'est le traité de Bretigny, traité qui est plus rude, qui a été négocié sur la base du traité de Londres, qui prévoit en échange, je dirais, de sa libération, une rançon, le maintien des territoires conquis et surtout la livraison jusqu'à ce que la rançon soit complètement livrée. C'est une rançon énorme de 4 millions de livres. Jusqu'à ce que la rançon soit complètement livrée, son fils est envoyé en otage à sa place. Tout le drame de cette affaire, c'est que Louis d'Anjou commence à s'agacer d'être otage.
Le fils
parvient à s'enfuir. Jean le Bon, chevaleresque, décide de prendre la place de son fils à Londres. Il part à Londres en 1364 et il meurt là-bas comme otage.
Il y a une dialectique du principe de l'honneur et de la pratique des otages qui est en effet assez désuète par rapport à notre actualité.
Voilà, tout à fait. Mais quel otage irait se rendre en échange d'une rançon qui n'a pas été complètement donnée? Là, pour le coup, on voit aussi qu'on est encore dans la question de l'honneur chevaleresque. L'otage sert, alors le cas bien sûr des rois est exceptionnel, ça sert à négocier un traité entre la France et l'Angleterre, entre la couronne de France et celle qui la revendique, l'Angleterre. Mais à plusieurs niveaux, de grands princes, que ce soit par exemple Saint-Louis ou Richard Ier d'Angleterre ou d'autres, vont être également capturés comme otages. L'otage sert aussi à monnayer la guerre, c'est une manière de la financer, grâce à des rançons qui sont exceptionnelles. Enfin, celle de Jean de Le Bon est la plus importante.
Au fond, ce que cette histoire montre, c'est qu'on passe progressivement de l'otage qui est donné, qui est proposé par un peuple vaincu pour garantir sa fidélité ou la suite de son comportement, et l'otage qui est pris par violence pour des raisons politiques, guerrières, ou éventuellement tout simplement pour des raisons de lucre. Et aujourd'hui encore, on trouve ce souci financier se mêler intimement à des préoccupations politiques. Et à cet égard, évidemment, il y a l'œuvre immortelle de Molière. Vous vous rappelez les fourberies de Scapin? Je vous donne à réentendre le moment où Géronte, le père, se fait rouler par Scapin, qui lui explique que son fils a été capturé par un Turc qui demande beaucoup d'argent pour le rendre.
Monsieur, votre fils...
Eh bien, mon fils...
est tombé dans une disgrâce la plus étrange du monde.
Et quelle?
Je l'ai trouvé tantôt tout triste de je ne sais quoi que vous lui avez dit, ou vous m'avez mêlé assez mal à propos. Et cherchant à divertir cette tristesse, nous nous sommes allés promener sur le port. Là, entre autres plusieurs choses, nous avons arrêté nos yeux sur une galère turque, assez bien équipée. Un jeune Turc de bonne mine nous a invités d'y entrer et nous a présenté la main. Nous y avons passé. Il nous a fait mille civilités, nous a donné la collation, où nous avons mangé des fruits les plus excellents qui se puissent voir et bu du vin que nous avons trouvé le meilleur du monde.
Qu'y a-t-il de si affligeant à tout cela?
Attendez, monsieur, nous y voici. Pendant que nous mangions, il a fait mettre la galère en mer et se voyant éloigné du port, il m'a fait mettre dans un esquif et m'envoie vous dire que si vous ne lui envoyez par moi tout à l'heure 500 écus, il va vous emmener votre fils en Alger.
Comment ? Diantre, 500 écus ?
Oui, monsieur, et de plus, il ne m'a donné pour cela que 2 heures.
Ah ! Le pandar le Turc m'a assassiné de la façon.
C'est à vous, monsieur, d'aviser promptement aux moyens de sauver des fers. un fils que vous aimez avec tant de tendresse.
Que diable allait-il faire dans cette galère?
Il ne songeait pas à ce qui est arrivé.
Va-t'en, Scapin, va-t'en dire à ce turc que je vais envoyer la justice après lui.
La justice en pleine mer? Vous moquez-vous des gens?
Que diable allait-il faire dans cette galère?
Une méchante destinée conduit quelquefois les personnes.
Il faut, Scapin, il faut que tu fasses ici l'action d'un serviteur fidèle.
Quoi, monsieur?
Que tu ailles dire à ce turc qu'il me renvoie mon fils et que tu te mettes à sa place jusqu'à ce que j'ai amassé la somme qu'il demande.
Eh, monsieur, songez-vous à ce que vous dites et vous figurez-vous que ce turc ait si peu de sens que d'aller recevoir un misérable comme moi à la place de votre fils.
Que diable allait-il faire dans cette galère?
Il ne devinait pas ce malheur. Songez, monsieur, qu'il ne m'a donné que 2 heures.
Tu dis qu'il demande
500 écus.
Attendez, n'a-t-il point de conscience?
Vraiment, oui. De la conscience à un turc.
C'est qu'il dit ce que c'est que 500 écus.
Oui, monsieur, il sait que c'est 1500 livres.
Croit-il, le traître, que 1500 livres se trouvent dans le pas d'un cheval?
Ce sont des gens qui n'entendent point de raison.
Mais que diable allait-il faire à cette galère?
Il est vrai, mais quoi, on ne prévoyait pas les choses de grâce, monsieur? Dépêchez.
France Culture, concordance des temps, Jean-Noël Jeannet.
Il s'agissait donc des Fourberies de Scapin. C'est un enregistrement de 1954 avec Louis de Funès dans le rôle de Géronte et François Perrier dans celui de Scapin. Là, on est dans la simplicité brute de l'enlèvement contre une rançon.
Tout à fait, avec cette dimension supplémentaire que ce sont bien évidemment les Turcs, hein, donc ce qui fait encore peur à cette Europe chrétienne, les Turcs qui sont à la manœuvre.
Les barbaresques,
on connaît tous l'histoire, mais ce que craint Géronte, c'est que son fils soit déporté à Alger, vendu comme esclave. Alors, il peut aussi se rassurer, soit en versant la rançon. On sait que la question de la rançon pose manifestement problème, et c'est un problème qui va devenir récurrent, puisque là, il ne l'a pas fixé, mais on sait aussi qu'il peut encore utiliser des ordres religieux. Il existe plusieurs ordres religieux qui se sont spécialisés dans la négociation d'otages, lors de la Sainte Trinité des Captifs, Notre-Dame de la Merci, dont la fonction était justement d'aller négocier et d'aller proposer un prix de rachat.
Mais ça, là, on retrouve ça dans l'actualité, évidemment, la grande question de l'usage éventuel d'intermédiaires qui est... Une affaire si présente dans tous les cas d'otages contemporains.
Avec parfois le risque aussi pour l'intermédiaire de se retrouver coincé dans des affaires, je dirais, qui ont trait plus à la criminalité qu'à la récupération d'otages, puisqu'il faut négocier, je pense, dans un milieu interlope. Hein, Aujourd'hui comme hier, le cas qui a été débattu, c'est Jean-Charles Marchiani qui s'était occupé de la négociation très, très réussie, justement, des otages français au Liban.
À quel moment ?
C'était dans les années 80, au milieu des années 80, 85, 86, 87, mais qui par la suite a raconté, enfin, évoquait dans cette négociation les contacts qu'il avait eus avec un milieu qui était aux franges de l'affairisme libanais.
Avec la Révolution française, on s'affirme l'effacement de la distinction entre les combattants et les non-combattants dans la guerre.
Jusqu'à la Révolution française, l'otage est encore considéré comme une manière de garantir la vie d'un individu. Hugo Grotius, hein, le père du droit international, l'intégrait dans son droit de la guerre et de la paix en considérant qu'il se différenciait des prisonniers. Par contre, avec la Révolution française, on voit émerger l'otage en tant que cible, un personnage qui est dans la guerre. On le voit émerger dans une certaine mesure avec la loi des suspects du 17 septembre 1793, qui prépare le terrain, qui, à travers la notion de suspect, montre déjà qu'on peut se saisir de personnes qui sont considérées comme « dangereuses », entre guillemets, les élites de l'ancien régime, et qui deviennent de facto, sinon des iure, des otages. On le voit par la suite, en 1799, avec le décret du 12 juillet 1799, qui là s'appelle effectivement la loi des otages, décret dont je peux vous citer quelques phrases, hein, les administrations.
À la fin du directoire.
On est proche du coup d'État de Napoléon. Décret qui dit « Les administrations des départements troublés par des assassinats politiques ou des émeutes pourront arrêter comme otages les nobles, les parents d'émigrés et les ascendants des présumés coupables. Ces otages seront civilement responsables des indemnités dues aux victimes et des récompenses accordées aux agents de la répression. » L'otage, désormais, est passé dans le camp des cibles à part entière d'un conflit. Là, pour le coup, c'est le conflit entre la Révolution et l'Ancien Régime.
Et puis, il y a le moment de Napoléon, avec un otage très célèbre, c'est le pape Pie VII.
Exactement.
On peut rappeler qu'il y a une pièce fameuse de Paul Claudel dans la série des Coups Fontaine qui évoque sur le mode romancé, mais qui évoque très directement cette question du souverain pontife pris en otage par l'empereur.
Oui, c'est la pièce L'Otage. En fait, la pratique a commencé à se forger, là encore, sous la Révolution, avec le cas de Piscis. Piscis qui avait été chassé de Rome par la République romaine, qui avait été capturé par les Français, après qu'il se soit réfugié à la Chartreuse de Florence, emmené prisonnier, il a été emmené à Bologne, à Parme, à Turin, à Briançon, Grenoble, et il est mort finalement épuisé à Valence. Cette même pratique, Napoléon va la réutiliser pour Pie VII, lorsque Pie VII se rebelle, entre guillemets, contre les exigences de l'empereur.
Après qu'il a accepté de le couronner lui-même à Notre-Dame.
Sous la pression quand même des armées françaises qui étaient plus très loin de Rome. Mais lorsque Pie VII décide, un, que le concordat ne peut pas être étendu au territoire conquis par Napoléon, deux, que le mariage de Jérôme Bonaparte ne peut pas être dissous, et trois, que le territoire de Rome ne peut pas participer au blocus contre l'Angleterre, dès ce moment-là, Napoléon s'énerve, il fait annexer les États pontificaux, il fait enlever d'abord le pape, après que le pape ait tenté de l'excommunier, il le fait déporter, emprisonner à Savone, il tente même de le faire venir, enfin il le fait venir à Paris pour négocier un nouveau concordat, le pape à ce moment-là est mourant, et finalement, ce concordat, c'est le concordat de Fontainebleau de 1813, ne va pas tenir puisque Pie VII le dénonce après avoir résisté. Et au final, en 1814, alors que l'empire napoléonien vacille, Napoléon décide de laisser repartir Pie VII à Rome. C'est un des rares cas où l'otage parvient à s'imposer à son preneur d'otage.
Cela dit, ce n'est pas très contemporain. Aujourd'hui, il n'y a guère eu de prise d'otage de chefs d'État ou de dirigeants majeurs. Ce qui, en revanche, nous conduit très directement à notre modernité, c'est l'usage des otages dans les guerres civiles. Je pense en particulier à la Commune de Paris.
La Commune de Paris va reprendre cette pratique du décret des otages, cette fois c'est un décret du 5 avril 1871, je cite, que toute personne prévenue de complicité avec le gouvernement de Versailles, donc l'adversaire, tiers, seront les otages du peuple de Paris. Dans le décret est précisé, toute exécution d'un prisonnier de guerre ou d'un partisan du gouvernement régulier de la Commune de Paris sera sur le champ suivie de l'exécution d'un nombre triple des otages retenus et qui seront désignés par le sort. Donc là, l'otage est non plus une garantie et quelqu'un que l'on traite, entre guillemets, ça c'était la formule des Romains, comme un enfant d'allié, mais c'est vraiment une cible à part entière pour s'assurer que de l'autre côté, le règlement ou la coutume de la guerre sera respecté.
Finalement, les communards résistent longtemps à l'idée de tuer des otages et puis ils y consentent. C'est le rôle de Ferré en particulier. Ils y consentent à la fin de la Commune avec en particulier le meurtre du cardinal archevêque de Paris, Monseigneur Darbois.
C'est au moment de ce qu'on a appelé la semaine sanglante, c'est-à-dire la répression extrêmement sévère menée par les Versaillais contre les communards, que Théophile Ferré signe l'ordre d'exécution de 6 otages, c'est-à-dire que donc accède au décret des otages qui avait été passé un petit peu plus tôt. Et donc ces 6 otages sont passés par les armes le 24 mai. On y croise non seulement Monseigneur Darbois, mais également des jésuites, le président de la cour d'appel de Paris, qui s'appelle Bonjean, ou encore l'abbé d'Aiguerie, qui vont être fusillés par un peloton composé de volontaires.
Et puis il y a une nouveauté également assez sinistre, c'est l'utilisation d'otages à partir de la fin du 19e et au début du 20e siècle comme accompagnement. C'est un mot pudique qui veut dire qu'on les met en fait devant les armées ou dans des navires pour détourner l'adversaire d'une frappe.
La question des boucliers humains va être très largement développée durant le XXe siècle et durant les guerres mondiales. C'est une tactique qui est éprouvée, grosso modo, à partir de 1914 et qu'on retrouve encore lors de la guerre du Golfe. On peut citer d'ailleurs pour cette affaire le sauvetage très médiatique du jeune Florian Barbu, qui avait 18 mois, par Patrick Poivre d'Arvor le 20 août 1990.
C'est un otage ?
Oui, il était otage.
On peut rappeler, Gilles Ferragu, que en décembre 1920, au moment où la révolution russe se heurte évidemment à une très forte résistance des armées blanches, où la guerre civile est partout, on peut rappeler que Trotsky, qui a rétabli une discipline de fer dans l'armée rouge, est aussi à l'origine de la loi des otages, puisque le gouvernement des soviets annonce dans la Pravda qui considère les prisonniers de la Garde Blanche et des groupes Vrangel et autres comme des otages. En cas d'attaque contre les chefs des soviets, ils seront exterminés sans merci. Et là, il y a une lettre très intéressante et belle de Pierre Kropotkin, l'anarchiste, qui écrit à Lénine « Respectez Vladimir Ilitch, n'y a-t-il personne autour de vous pour rappeler à vos camarades que de telles mesures sont un retour aux pires périodes du Moyen-Âge. Quiconque se soucie de l'avenir du communisme ne peut y recourir. Personne ne vous a-t-il expliqué ce qu'est réellement un otage? Un otage est détenu non pas en punition de quelques crimes, mais pour exercer un chantage sur l'ennemi avec sa mort. Vos camarades ne comprennent-ils pas que pour les otages et leurs familles, cela équivaut à une restauration de la torture? N'y verra-t-on pas le signe que vous considérez votre expérience communiste comme un échec et que ce n'est plus tant ce système qui vous est si cher que vous essayez de sauver, mais votre propre peau ?» Fin de citation. C'est impressionnant. Et
ce sera d'autant plus vrai qu'à partir de l'attentat contre Lénine, on décide justement de massacrer des otages. Il y aura en 1918 près de 2000 otages qui sont massacrés un peu partout sur le territoire contrôlé par les bolcheviks, en réaction de la série d'attentats qui ont visé Lénine et ses proches.
Alors il convient maintenant, Gilles Ferragu, que nous en arrivions à plus contemporain, à la deuxième moitié du XXe siècle, pour tâcher d'établir une sorte de typologie de l'usage et de la pratique des otages, sans faire naturellement une hiérarchie dans l'horreur, dans l'affreux, mais en essayant de comprendre l'usage de cette pratique dans les relations internationales. Et on va commencer par évoquer un épisode resté fameux, un épisode très sanglant, celui des Jeux Olympiques de Munich en 1972, avec la prise en otage par des militants palestiniens de plusieurs athlètes israéliens. Écoutez cet extrait d'Interactualité du 5 septembre 1972, présenté par Yves Mourouzi et le correspondant sur place, Christian Billman.
Munich, il n'était pas tout à fait 5 heures du matin lorsque tout a éclaté.
Oui, il y a 4h30, nous a précisé le préfet de police tout à l'heure, mais en disant que les témoignages là-dessus étaient même un peu contradictoires. Donc 4h30 ce matin, 5 hommes portant de gros sacs de sport escaladent les grilles du village olympique. Comme ils sont habillés en sportif, les seuls témoins les prennent pour des athlètes qui rentrent discrètement au petit matin et n'interviennent pas. 5 minutes plus tard, ils pénètrent dans le quartier des Israéliens de force, car les Israéliens résistent. Et dans la fusillade qui s'ensuit, l'entraîneur de lutte Moshe Weinberg est tué. Un autre membre de la délégation est blessé. Il est mort à son tour dans la matinée. 5 heures, les Palestiniens, membres de l'organisation Septembre Noir, vous l'avez dit, ont pris 9 otages israéliens qu'ils gardent dans leurs locaux. Ils sont armés de pistolets mitrailleurs et gardent les balcons. 6 heures, la police a bouclé le village et le suspense commence. Les Palestiniens font connaître leurs revendications. Un avion doit être mis à leur disposition à l'aéroport de Munich pour leur permettre d'emmener leurs otages vers une destination inconnue. Dans la matinée, les conditions changent. Le préfet de police de Bavière annonce que les Fedayin veulent que les Israéliens libèrent 200 prisonniers politiques avant midi, faute de quoi ils exécuteraient les otages un par un toutes les 2 heures. Depuis, l'ultimatum a été repoussé à 14h d'abord et maintenant à 17h. Pendant ce temps, M. Everett Brundage délibère avec Willy Daume et le préfet de police sur ce qu'on peut entreprendre, tandis que tout autour du village olympique, des voitures blindées et des tireurs d'élite de la police bavaroise prennent position. M. Schreiber, le préfet de police, propose aux Palestiniens de remplacer les otages israéliens par des policiers allemands, ceci pour sauver la paix olympique. Il propose aussi de l'argent, refus catégorique. Il faut qu'Israël libère 200 prisonniers politiques ou ses athlètes seront exécutés. Voilà où l'on en est à l'heure actuelle. Personne ne peut savoir comment les choses vont évoluer.
Alors comment les choses ont-elles évolué, Gilles Ferragu, rappelez-le nous.
Elles ont évolué d'une manière dramatique, c'est-à-dire que d'un côté on a des otages qui sont coincés dans leur rôle d'otage, qui n'ont aucun moyen de se sortir de cette situation, malgré les tentatives de négociation menées tant par le chef de la police allemande que par le chef de l'équipe olympique égyptienne, Ahmed Touni. Donc ces otages sont emmenés avec les preneurs d'otages sur une base où un Boeing 727 les attend. C'est là que, entre guillemets, les autorités allemandes ont décidé de leur tendre un piège, mais ne disposent pas des moyens humains, on va dire, c'est-à-dire des tireurs d'élite et des équipes qui sont prêtes pour organiser ce genre de trappe. L'attaque, enfin la fusillade, mène finalement à la mort de tous les otages ainsi qu'à celle de la plupart des preneurs d'otages. Et l'une des controverses qui va se développer sur cette affaire, c'est de savoir si les otages sont morts du fait de la maladresse des tireurs allemands ou du fait des preneurs d'otages eux-mêmes.
Le bruit fait autour de la planète est immense.
Le bruit est d'autant plus immense que la question était jusque-là un petit peu ignorée. La question palestinienne avait ressurgi via une série de détournements d'avions organisés à partir de l'année 1969, qui étaient déjà des prises d'otages, celui du Boeing 707 de la TWA Los Angeles-Tel Aviv, puis ce qu'on a appelé le Skyjack Sunday du 6 septembre 1970, le détournement de 4 avions d'un seul coup. Là, avec l'affaire de Munich, on passe à une affaire d'une ampleur bien plus importante, puisque on est aux Jeux Olympiques et il y a 670 millions de spectateurs qui découvrent ce 5 septembre au matin la prise d'otage réalisée dans le village olympique. Donc la question palestinienne devient une question qui s'impose à la télévision partout. Là, ça permet aux différents militants palestiniens, en l'occurrence ici l'organisation Septembre Noir, de mettre sur le devant de la scène la question palestinienne.
Dès ce moment-là, un certain nombre d'analystes observent que l'efficacité de cet effort pour faire connaître la cause peut s'expliquer par une dialectique entre le développement des masses médias, des médias universels, et d'autre part l'émergence, au moins dans la civilisation occidentale, de l'idée de l'individu qui concentre sur lui-même les émotions de l'opinion publique.
Tout à fait. Là, les médias, pour le coup, ont un rôle majeur.
Triangle entre l'individu, les médias et les assassins.
Oui, c'était Margaret Thatcher qui disait qu'il fallait priver les terroristes de leur oxygène médiatique face à l'IRA. Mais la question est la même, c'est-à-dire que les terroristes utilisent les médias pour faire connaître leur cause en général et pour faire pression non plus sur leurs victimes, les otages, mais sur la cible, c'est-à-dire les opinions publiques, les démocraties et au-delà de ça, l'État.
Les exploits, c'est une formule que j'emploie avec précaution, les exploits de Carlos vont dans le même sens, en particulier avec la prise d'otage des ministres chargés du pétrole à l'OPEP à Vienne en septembre 1975.
Carlos, lui, va encore développer cette stratégie des preneurs d'otages, puisque à l'origine, il est soutenu par la Libye, du colonel Kadhafi, mais qu'au cours de la prise d'otage, il change son fusil d'épaule, entre guillemets, et il va transformer ce qui était une prise d'otage politique en une affaire lucrative. On rentre dans la logique des prises d'otages qui doivent rapporter.
Celle-ci étant évidemment logique beaucoup plus ancienne, nous l'avons vu, et en quelque sorte pluriséculaire. Je parlais de l'individu, le monde est particulièrement attentif aux impressions, évidemment, des otages du même coup. Ça fait partie d'ailleurs de la stratégie de ceux qui les prennent. On a beaucoup de témoignages, j'en ai choisi un, celui de Normandin qui a été fait prisonnier une dizaine d'années plus tard à Beyrouth. On est en mars 1986. C'est un extrait des Chemins de la connaissance sur France Culture. Le 4 octobre 2004, Jean-Louis Normandin est au micro de Jacques Munier.
Nous sommes dans un appartement et un des gardiens allume la télé. Il y avait Antenne 2 et le journaliste d'Antenne 2 annonçait une équipe d'Antenne 2 prise en otage à Beyrouth. Donc on a appris par la télé que nous étions pris de fait en otage. C'était le 9 mars 86.
Et là, vous êtes installé dans la durée.
Alors là, non, on ne pense pas être dans la durée parce qu'on refuse la réalité. On se dit que c'est une erreur judiciaire, entre guillemets, c'est pas possible. On se dit, on se dit que dans 8 jours, il y a les élections législatives en France qui allaient amener la première cohabitation. On se dit, c'est pas possible, on va être libérés, on n'est pas comme les autres. Et donc pendant quelques jours comme ça, on spécule sur. On n'est pas forcément pessimiste. On devient vraiment pessimiste après la période que j'ai évoquée tout à l'heure, celle qui consiste à nous casser. Et quand on est séparé deux par deux et entre guillemets aussi installé dans la détention, c'est-à-dire on est deux et deux. Moi, je suis avec Georges Janssen, Philippe Rochaud et Aurel Cornéasson dans une autre pièce, dans le même appartement, mais ce sont des pièces aveugles du jour, de la lumière du jour. On est enchaînés toujours.
Toute la journée.
Toute la journée. Et notre journée est rythmée par trois repas. Et à chaque repas, avant ou après, ça dépend de l'humeur des gardes, on va aux toilettes et c'est tout. Donc ça, là, on comprend qu'on prend un rythme de croisière, quoi, si je peux dire.
Comment s'occupe-t-on dans ces moments-là ?
Alors, dans ces moments-là, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs époques, enfin, dans ma perception, dans mon souvenir, il y a plusieurs époques. Il y a la première époque qui est celle avec Georges, ensuite il y a celle avec Corel, ensuite je suis seul pendant 2 mois, et ensuite je suis avec 2 Américains. Et chaque époque est un petit peu colorée différemment. La première époque, moi, j'ai toujours essayé de garder une petite forme physique. Donc, je me suis dit, pourquoi pas faire des mouvements. Donc, on faisait des abdominaux, des pompes, des trucs très bêtes comme ça. Et surtout, on implorait tous les jours des bouquins. Mmh. Et on a eu la chance d'avoir la collection Harlequin, des choses comme ça, c'était formidable. Et puis de temps en temps, un coup de chance, on tombait, bon, Les Fleurs du Mal, il y a 2 ou 3 bouquins comme ça que j'ai pas pu tous les garder, mais il y a 2 ou 3 bouquins qui m'ont accompagné pendant des mois. J'avais Manhattan Transfert, Les Fleurs du Mal, et puis un bouquin de Favier, c'était Philippe Lebel, l'histoire de Philippe Lebel, une biographie de Philippe Lebel.
France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet.
Baudelaire et Jean Favier au secours de Jean-Louis Normandin pour aider au maintien de son moral, c'est un peu inattendu. Jean-Louis Normandin a été, Gilles Ferragu a été emprisonné avec Philippe Rochaud, Aurel Cornéa et Georges Ansenne, il les évoque en passant. C'est un peu plus tôt que 2 autres otages fameux ont été également enlevés à Beyrouth. Je pense à Jean-Paul Kaufmann et à Michel Seurat, morts en captivité. Ils ont été enlevés par le djihad islamique, en fait c'est Hezbollah.
Exactement, c'est Hezbollah. Par la suite, il y aura encore d'autres enlèvements, notamment Roger Hawke. On est toujours face au même mode opératoire et pour les otages, face au même type de vie, c'est-à-dire qu'ils se retrouvent en général enchaînés. Jean-Paul Kaufmann racontera qu'après qu'il ait été enchaîné, c'est à ce moment-là que ses geôliers ont arrêté de le harceler systématiquement, donc enchaînement. En général, les otages sont plongés dans le noir le plus absolu, c'est-à-dire que soit ils doivent garder un bandeau sur les yeux, soit de toute façon ils sont dans des sous-sols ou dans des pièces complètement assombries. La nourriture est extrêmement limitée, très peu d'exercice physique si ce n'est pour garder une espèce de santé, et surtout la recherche d'un loisir quelconque, entre guillemets, d'une forme de détente, si je puis me permettre, quelconque, en général par les livres. Donc là, il y a une collection de livres, lorsqu'on lit les récits des différents otages, on s'aperçoit que c'est à peu près toujours les mêmes livres qui doivent circuler d'un groupe à l'autre d'otages, notamment une collection d'ouvrages Harlequin, souvent la Bible, qui est demandée par plusieurs otages, plus quelques grands classiques.
Et le Coran. On peut d'ailleurs dire en passant qu'ils n'ont pas succombé au syndrome de Stockholm. Le syndrome de Stockholm, l'expression est très connue, on ne sait pas toujours son origine. C'est en août 1973 que, dans une banque de Stockholm, au Crédit Mutuel suédois, un terroriste, Eric Olsson, a capturé un certain nombre de clients qui étaient là et qu'après quelques jours de captivité, ils ont eux-mêmes défendu leur preneur d'otages.
Non seulement ils ont défendu, mais même l'une des otages, a développé une relation amoureuse avec ce Eric Olsson
en
prison.
En si peu, c'est un coup de foudre.
Un coup de foudre, mais dans une situation très particulière et que la psychanalyse explique très bien, c'est l'instinct de survie.
Là, il s'agit donc de faire connaître une cause pour l'essentiel. Venons-en à une deuxième finalité qui parfois s'entremêle, mais qu'on peut assez aisément distinguer. C'est la pression politique sur un État, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur. Quand on capture Aldo Moro, l'ancien président du Conseil italien, les Brigades Rouges le capturent et ensuite le tuent. C'est un dernier cas où on retrouve la prise en otage d'un grand leader politique. Il n'y en a pas eu depuis.
Non, Aldo Moro, c'est le plus important, le plus marquant, et je dirais même le plus traumatisant.
Et ça renvoie à tous les souverains du Moyen-Âge et d'avant.
Exactement. Avec là, en plus, l'enjeu supplémentaire que lorsque les Brigades Rouges kidnappent Aldo Moro, elles kidnappent l'homme qui est en train de négocier entre, d'un côté, la démocratie chrétienne italienne et le Parti communiste, une espèce de trêve politique. Une trêve qui déplaît énormément de gens, à commencer par certains grands hommes de la démocratie chrétienne, une trêve qui déplaît également à l'extrême gauche. Et à partir de ce moment-là, sa capture, le 16 mars 1978, en plein Rome, va devenir une affaire d'État. Il est détenu pendant 55 jours dans ce que les preneurs d'otages appellent la prison du peuple. C'est un tout petit appartement avant de finalement être exécuté et son corps est retrouvé par la suite dans une voiture.
Une troisième catégorie dans la typologie des prises d'otages contemporaines, c'est, on retrouve là, alors là, la longue durée de l'histoire, c'est-à-dire le désir de trouver de l'argent.
Tout à fait.
De l'argent, de simple recherche de financement de toute nature.
C'est même l'objet d'un débat, c'est toujours cette question des rançons et de la savoir s'il faut les donner ou pas. Récemment encore, le président américain Obama et les Américains disent refuser toute négociation et toute rançon. Le président Obama accusait la France d'avoir versé à peu près 120 millions de dollars en tout aux différents terroristes d'Al-Qaïda pour libérer ses otages, en estimant que c'était une manière d'alimenter le terrorisme.
Alors là, on revient à l'expérience du très long terme, c'est-à-dire la part de lucre dans la prise d'otage.
Dès l'époque médiévale, l'otage sert à alimenter aussi les finances de la guerre et les finances de celui qui l'a pris en otage, mais qui est un seigneur comme lui. On est dans un otage qui à la fois a vu sa vie préservée pendant la guerre, donc peut être dans une certaine mesure satisfait, et c'est aussi une forme d'économie de la guerre particulière pour des territoires qui sont encore sous la féodalité. Alors que les demandes de rançon qui sont faites à l'époque contemporaine visent à peu près le même enjeu, un otage, ça devient une carte bleue sur laquelle on peut tirer beaucoup d'argent, et selon les pays, certains pays estiment qu'il faut sacrifier les otages pour éviter de donner cet argent et alimenter ce terrorisme, puisqu'on est face à du terrorisme. D'autres pays, comme la France, estiment que la vie, dans ces cas-là, est importante et qu'elle nécessite une négociation.
On retrouve exactement cet embarras. Négociation, à quel prix? Faut-il donner de l'argent? Faut-il le dire? On retrouve cet embarras dans des propos très, très clairs sur la complexité, qui sont tenus par Laurent Fabius, Premier ministre, devant l'Assemblée nationale. C'est la fin de son gouvernement avant la défaite de la gauche aux élections. On est en mars 1986 et Fabius parle des otages au Liban et de la responsabilité de l'État.
Notre cœur à tous, notre conscience est révoltée. Nous pensons d'abord aux otages, nous pensons à leurs familles, nous pensons à leur angoisse. Comment est-ce possible? Pourquoi n'arrive-t-on pas à les sortir de là? Il faut à la fois avoir des contacts. Et nous avons essayé cette voie. Mais nous n'avons pas le droit de céder au chantage. Il faut à la fois être implacable, mais est-ce qu'on peut exposer leur vie? Voilà. Même si elle est terrible, la responsabilité d'État.
Terrible, en effet, la responsabilité de l'État, être implacable chez le Ferragu d'un côté et en même temps ne pas exposer la vie des otages.
C'est là qu'on voit l'évolution par rapport à l'époque antique, où justement les otages étaient intégrés à une coutume et par conséquent leur vie n'était pas menacée, sauf si la tribu ou la nation qui les avait envoyés comme otages trahissait le serment. Donc la question ne se posait absolument pas dans les termes que définissait Laurent Fabius. Le bon avec l'ère contemporaine, c'est qu'au contraire, l'enjeu de l'État, c'est de libérer l'otage. Il n'y a plus de droits ou de coutumes possibles. Il y a simplement une négociation ou l'absence de négociation.
Avec la dialectique constante entre le secret, qui paraît s'imposer pour des négociations éventuellement efficace, et en particulier si on a versé de l'argent, ne pas le dire pour que d'autres preneurs d'otages ne soient pas poussés à eux-mêmes à réitérer cet acte pour eux-mêmes être enrichis, et en même temps la nécessité de faire connaître au public pour s'appuyer sur l'émotion collective. Mais là, c'est ambivalent puisqu'on sert autant la finalité des preneurs d'otages que la finalité des démocraties qui essayent de libérer ces malheureux.
À partir du moment où, je dirais, de l'Antiquité, du Moyen-Âge à l'époque contemporaine, on est sorti du droit et de la coutume pour rentrer dans le crime, puisque au final, la prise d'otage, ça relève quand même du crime et du terrorisme. À partir de ce moment-là, les médias jouent un rôle différent. Il n'y a pas besoin de médiatiser un otage lorsqu'il est la garantie d'un État, si ce n'est peut-être pour faciliter la réunion d'une rançon. Par contre, à l'époque contemporaine, c'est Hervé Guesquière qui raconte ça lorsqu'il a été pris en otage en Afghanistan, la médiatisation est essentielle à partir à peu près de 2 mois, estime-t-il, pour garantir que l'otage reste vivant, garantir sa survie en maintenant, entre guillemets, l'actualité et la nécessité de le libérer.
Mais l'actualité affichée sur la façade de l'hôtel de ville ou ailleurs, ou sur les petits écrans constamment, sert en même temps, c'est l'ambivalent, sert les dessins des preneurs d'otages.
C'est la manière dont les preneurs d'otages comme l'otage et comme l'État qui est ciblé dans cette affaire, peuvent utiliser les médias. L'otage sait que sa vie sera préservée parce qu'on continue de parler de lui. Les preneurs d'otages savent que leur cause est constamment relayée dans un média et l'État se retrouve face à son opinion publique qui sollicite des moyens. Et dans ces cas-là, ça peut être aussi un moyen de justifier la négociation et la rançon.
Et si vous considérez les choses sur la longue durée, une dernière fois, Gilles Ferragut, est-ce que cette présence du secret et de l'affichage a évolué depuis l'Antiquité ?
Dans l'Antiquité, il est bon de savoir que Rome, par exemple, détient quelqu'un en otage parce que c'est une manière, un, de montrer la supériorité romaine, hein, c'est le peuple qui détient l'otage est le peuple de loin le plus puissant, et deux, de manière de garder tous les proches de cet otage dans le respect des serments. La situation à l'époque contemporaine est différente, hein, le preneur d'otage n'est pas forcément le plus puissant, on est dans une guerre asymétrique, c'est la guerre du faible contre le fort, et la prise d'otage devient dans ces cas-là une arme, un moyen pour contraindre le fort à une décision ou tirer de lui une somme suffisante pour continuer le combat.
C'est peut-être ainsi qu'on peut d'ailleurs définir de façon plus éclatante l'opposition entre jadis et aujourd'hui, puisque à l'époque c'était une manière pour le fort de s'assurer que le faible ne redresserait pas la tête. Alors qu'aujourd'hui, comme vous le dites, il s'agit pour le faible de s'efforcer de réduire à cuilla la puissance du fort.
Exactement. Le rapport s'est complètement inversé. C'est le principe même de cette guerre asymétrique.
Merci de nous avoir guidés dans cette réflexion sur la très longue durée, Gilles Ferragut. Vous avez publié tout récemment un livre qui s'appelle « Histoire du terrorisme », paru chez Perrin, voici quelques semaines. Comment avez-vous été attiré vers ce sujet spécifique ? Je peux vous le demander sans être indiscret ?
Tout à fait, c'est parce qu'après avoir travaillé sur les rapports entre la diplomatie et la religion, je me suis demandé où est-ce que la religion pouvait mener via un certain fanatisme jusqu'à d'autres excès que la diplomatie, et ça a été le terrorisme.
Et vous vous engagez à travailler davantage sur les otages ?
Voilà, je suis en train de préparer un ouvrage justement sur cette question.
Un autre livre est utile, c'est celui de Gérard Gégère, « Prise d'otage, de l'enlèvement des Sabines » à Ingrid Bettencourt, deux noms que nous n'avons pas cités. Je voudrais enfin signaler le mérite de l'association Thucydide, qui propose de temps en temps des cafés histoires, comme il y a des cafés de philosophie, et qui, le 5 avril 2011, vous a réuni avec Philippe Contamine, grand historien du Moyen-Âge, qui lui-même avait ici même, il y a très longtemps, réfléchi à la question des otages au Moyen-Âge. Avec Philippe Contamine, Gilles Ferragut, vous avez proposé une rencontre sur l'histoire des otages du Moyen-Âge à nos jours. Vous trouverez le compte-rendu de cette rencontre sur le site de l'association Thucydide. Et puis d'autres informations bibliographiques, comme d'habitude, sur notre site, avec les références des documents sonores que nous avons utilisés. Et vous pourrez bien sûr écouter, réécouter et télécharger cette émission. Samedi prochain, nous partirons d'une réflexion récente du souverain pontife sur la légitimité de parler d'une guerre juste à propos du combat contre le soi-disant État islamique qui opprime les chrétiens d'Orient. Et nous réfléchirons à ce que l'Église a pu dire jadis et naguère sur la guerre juste, quand elle y croyait ou quand elle n'y croyait pas, avec l'historien André Vaucher. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée avec l'appui très utile de Jeanne Guéroux et de Nathalie Lempereur, et réalisée par Patrick Molinier, avec à la prise de son Jean-Michel Bernot, et pour les archivinats, Isabelle Fort-Rendu. Et dans quelques instants, comme chaque samedi, Dominique Rousset et ses invités pour l'économie en question.